À l'intérieur, l'interrogatoire se poursuit. Une heure passe. Pierre croit l'incident oublié quand un des valets du grand prêtre, qui accompagnait les gardes au mont des Oliviers, l'aperçoit et profère de nouveau la terrible accusation. « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» La peur tenaille Pierre. « Non, non, je ne connais pas cet homme-là. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » À ce moment, dit l'Évangile, le coq chanta pour la seconde fois. L'interrogatoire terminé, Jésus paraît dans la cour, étroitement tenu par les gardes, les mains toujours liées. Son regard croise celui de Pierre un bref instant, mais quel instant ! Pierre regarde Jésus qui s'éloigne, le désespoir envahit son cœur. Comment le souvenir de la prédication de Jésus n'aurait-il pas à cet instant traversé l'esprit de Pierre ? C'est donc vrai, il a renié trois fois son maître. De cette cour, il s'enfuit à toutes jambes, hors du palais, loin du monde, il s'arrête. De longs sanglots le secouent. Plus rien ne peut plus retenir les gardes, puisque le grand prêtre a crié que cet homme-là avait blasphémé. On ne lui doit plus aucun ménagement. Dans cette cour, après la fuite de Pierre, les gardes se sont arrêtés. Ils forment cercle autour de ce prisonnier sans défense. On lui crache au visage, on l'injurie. Quelqu'un a une idée pour mieux s'amuser de Jésus. Il faut lui bander les yeux. Les uns après les autres, ils viennent le gifler à tour de bras et l'on rit. L'on se moque. « Alors toi, le Messie, devine qui t'a frappé ?» Dans une salle proche de l'entrée du temple, devant le Sanhédrin réuni, on vient de pousser Jésus, avili, diminué par des coups déjà reçus, les crachats dont son habit est recouvert. Cela se passe très vite. « Si tu es le Christ, déclare-le-nous. Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Pourtant, désormais, le Fils de l'homme siégera à droite de la puissance de Dieu. » Des rangs des prêtres, j'ai eu une protestation scandalisée. « Tu es donc le Fils de Dieu ? Je le suis. » La réplique, c'est un cri unanime. Qu'avons-nous besoin encore de témoignages ? C'est vrai, une telle affirmation équivaut à une condamnation à mort. Et il n'y a plus de temps à perdre. Il faut conduire Jésus chez Pilate. Qu'est-il donc ce Pilate dont désormais va dépendre le destin de Jésus ? Il s'agit de l'homme le plus puissant de Judée, représentant personnel de l'empereur romain. Il gouverne toute la province avec des pouvoirs presque illimités. Pontius Pilatus, ainsi s'écrivait son nom en latin, est un chevalier romain. Il a été nommé par Tibère, procurateur de Judée en l'an 26 de notre ère. 4 ans avant que Jésus soit conduit devant lui. Un historien juif de l'époque, Philon, ne l'aimait guère. Il le jugeait cruel par nature, ne reculant devant rien, faisant partout régner l'orgueil, l'arrogance en même temps que la corruption. La vérité, c'est que la tâche de Ponce Pilate n'est pas facile. Son autorité dépend de la confiance que Tibère lui garde. Si les Juifs le dénoncent à l'empereur, cette confiance risque d'être mise en péril et il perdra sa place. N'oubliez pas que le peuple juif se montre particulièrement difficile à gouverner. La présence sur 3 trônes des fils d'Hérode le Grand complique encore le jeu. Et puis, il y a ces débuts de révolte qui éclatent périodiquement et qu'il faut mater. Dans ce cas-là, Pilate n'y va pas de main morte. En l'an 36, lorsqu'il sera relevé de ses fonctions, on lui reprochera sa dureté. Le fait qu'il ait été maintenu en Palestine pendant 10 ans démontre néanmoins qu'il n'a pas connu que des échecs, loin de là. Insupportable, décidément, ces Juifs, c'est ce que doit penser Pilate lorsque, sitôt le matin, il se voit obligé de sortir de son palais, cette forteresse que l'on appelle l'Antonia. Il regarde surpris cette foule au comble de l'excitation qui entoure un prisonnier silencieux. Aucun signe de cette lâcheté que l'on voit en général chez les malfaiteurs, au contraire, une dignité qui frappe le Romain. Sa mauvaise humeur perce dans la première question qu'il adresse à cette foule. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils sont plusieurs à crier. « Si ce n'était pas un criminel, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate comprend mal. « Eh bien, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Impossible de dissimuler davantage ce que l'on attend du procurateur. Tu sais bien qu'il nous est défendu de mettre personne à mort. C'est donc la mort de cet inconnu que l'on attend de lui. Mais pourquoi lui, Pilate, se plierait-il aux exigences de cette foule ? On ne lui a même pas dit ce qu'on reprochait aux prisonniers. Un discours à plusieurs voix, hargneux, volubile, cherche à l'éclairer. Il bouleverse notre nation, il défend de payer le tribut à César, il s'arroge le titre de roi. Si ces accusations sont fondées, elles sont graves. Pilate veut en avoir le cœur net. Il quitte sans regret cette cohue vociférante, rentre dans son palais, s'arrête dans la cour et demande que le prisonnier lui soit amené. Dans l'attitude de Pilate à l'égard du prisonnier, on découvre plus de curiosité que d'antipathie. Comment comprendrait-il ce Romain les griefs énoncés par ces Juifs qu'il connaît certes depuis longtemps, mais qu'il juge toujours aussi compliqués ? Sans hostilité apparente, plutôt avec un léger amusement, il interroge « Est-il vrai que tu sois le roi des Juifs ?» Avant de répondre, Jésus veut savoir à qui s'en tenir. Cette question, la poses-tu de ta propre inspiration ou d'après ce que l'on a dit de moi ? Pilate hausse les épaules. Est-ce que je suis juif, moi ? Bonne manière de faire comprendre à Jésus que seuls les prêtres juifs l'ont informé de l'affaire. Ton peuple, tes prêtres veulent que je te juge. Qu'as-tu fait ? Autant Jésus a montré au temple de la réticence à répondre aux questions pièges qui lui étaient posées, autant il tient à s'expliquer devant Pilate qui, lui, paraît sincèrement désireux de le comprendre. Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes partisans auraient combattu pour que je ne sois pas livré. À l'heure présente, mon royaume n'est pas ici-bas. » Je suis sûr que le front de Pilate a dû ici se creuser de rides et qu'il a froncé les sourcils. Tout cela lui paraît bien mystérieux. Il insiste. « Tu es donc roi ?»« Oui, tu l'as dit. Je suis roi. » Devant l'incompréhension évidente de Pilate, Jésus tient à aller jusqu'au bout de sa pensée. « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Ce mot de vérité frappe Pilate. « Qu'est-ce que la vérité » demande-t-il des abusés. On sent que, comme bien d'autres, il a recherché cette vérité, mais ne l'a pas trouvée. Il estime en savoir assez sur Jésus. Il s'avance sur le seuil du palais, fait face à la foule avide. « Je ne trouve rien de criminel en cet homme. » Une volée de protestations, voilà ce à quoi il a droit. Il a du mal à discerner le sens de toutes ces interpellations. Un mot revient pourtant à plusieurs reprises. « Galiléen, quoi ?» Une idée traverse tout à coup l'esprit de Pilate. Le tétraque de Galilée, Hérode, se trouve précisément à Jérusalem où il s'est rendu pour la Pâque. Voilà une façon ingénieuse de se débarrasser de ce juif dont il n'a que faire. Son verdict tombe imprévu mais parfaitement clair. « Envoyez votre homme à Hérode, c'est lui que cela regarde. » La journée s'avance. Les rues sont encombrées de ces pèlerins en grappe qui, par dizaines de milliers, sont accourus pour la Pâque. Que de regards effarés quand on reconnaît ce prisonnier serré de près par les gardes, flanqué de ces prêtres vigilants, haineux, qui ne leur quittent pas d'une semelle. Quoi, c'est Jésus de Nazareth ? Celui-là même que l'on acclamait 5 jours plus tôt ? De l'Antonia, forteresse collée au temple, il faut, pour gagner le palais d'Hérode, traverser la ville de part en part, franchir la vallée du Tyropéon, passer devant le palais des Asmonéens, 1 kilomètre environ à parcourir, en fendant la multitude qui, elle, se dirige à contre-courant vers le temple. Voici enfin les colonnes. On en admire la richesse. Du palais d'Hérode, les gardes y poussent Jésus. Un instant plus tard, il est en présence du tétrarque. Loin d'accueillir le prisonnier avec hostilité et dureté, Hérode lui montre bon visage. Hérode eut un grand plaisir à le voir, dit Luc, car il désirait depuis longtemps le rencontrer, ayant beaucoup entendu parler de lui. Le Tétrarque espère même vaguement que Jésus lui accordera la faveur d'un prodige de sa façon. Déception. Au flot de paroles dont Hérode l'assaille, Jésus ne répond que par un mutisme absolu. Hérode se lasse. Que ferait-il de cet individu qui se refuse à tout dialogue ? Autour de lui montre le cri multiplié des prêtres et des scribes. « Jésus mérite la mort, tu dois le condamner, hâte-toi !» Que faire ? Au fond, Pilate lui a joué un mauvais tour. Pourquoi ne pas lui rendre l'appareil ? « Renvoyez-le à Pilate, » dit Hérode. Pour que la plaisanterie soit parfaite, il fait apporter une robe quasi royale d'un rouge éclatant. Ordonne qu'on en revête Jésus. Les gardes s'esclaffent. Ils poussent devant eux ce prisonnier devenu un sujet de dérision. Il y a 10 heures que cela dure. Pour la 4e fois depuis l'aube, Jésus va traverser Jérusalem. Il chancelle sous les bourrades, baisse la tête sous les quolibets. Il marche, escorté du même cortège furieux et hurlant, direction l'Antonia. Les princes des prêtres, les magistrats, le peuple se bousculant autour de l'estrade où, sur la chaise, curule un siège d'ivoire réservé à certains magistrats romains. Pilate est venu prendre place entre la foule et lui, Jésus seul. Songez que depuis son arrestation au mot des Oliviers, il n'a pas eu un seul instant le droit de s'asseoir. « Vous m'avez conduit cet homme que vous accusez d'avoir appelé à la révolte, » dit Pilate. « Je l'ai interrogé et n'ai trouvé de preuve de rien qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait châtier. » « Châtier ? Oui, ce Jésus n'est pas un rebelle, mais il n'en a pas moins suscité des troubles. Cela ne mérite certainement pas la peine de mort capitale, mais pourquoi pas quelques coups de fouet ?» Décidément, Pilate ne veut pas la mort de Jésus. Il le prouve. Une tradition pour la Pâque veut que le procurateur gracie un condamné. On garde en prison un certain Barabbas, désigné par les autorités comme un bandit et qui est probablement un zélote. Au cours d'une tentative de sédition, il a tué un homme. Une nouvelle idée vint à Pilate. Il élève la voix pour être entendu de tous. « Qui voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus ?» Il en est convaincu. Entre un meurtrier et cet homme qui n'a pas de sang sur les mains, on va choisir Jésus. Mais la foule, soigneusement travaillée par les prêtres, hurle « Barabbas ! Barabbas !» Allons, il est dit que Pilate ne parviendra pas à sauver Jésus. Contrarié, maussade, il pose une nouvelle question. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Dans l'ombre, un homme au comble de l'angoisse a suivi avidement ces événements. C'est Judas. D'heure en heure, son espoir fou de voir Jésus se transfigurer, se présenter aux foules juives et aux légions romaines dans tout l'appareil de gloire que l'on pouvait attendre du Fils de Dieu, cet espoir n'a cessé de s'amenuiser. Quand Jésus a été conduit devant le Sanhédrin, Jésus a cru encore que Jésus ferait tout à coup tomber ses liens, qu'il s'envelopperait d'une lumière insoutenable, que sa voix tonnerait, que les prêtres figés par la terreur se prosterneraient devant lui, que les épées des légionnaires romains fondraient entre leurs mains, que Caïphe et Pilate eux-mêmes se rangeraient pleins de stupeur et d'humilité aux ordres de Dieu descendus sur terre. Or, ce qui attend le fils de Marie, c'est la mort, le pire et le plus infamant des supplices, la croix. Cela à cause de lui, Judas, par sa trahison. Les 30 deniers qu'il a reçus lui brûlent les doigts. Il court au palais de Caïphe, jette les pièces maudites aux pieds des prêtres. Il sanglote, il hurle, j'ai péché en livrant le sang innocent. Les autres se moquent de lui. Que nous importe, cela te regarde. Judas part en courant. Il s'enfuit, éperdu, écrasé de remords. Il sort de la ville. Devant lui, un arbre. Il s'arrête, ôte sa ceinture, l'attache à la plus haute branche, il se hisse jusque-là, passe la ceinture autour de son cou, il se jette dans le vide. Quelque temps plus tard, des passants découvriront son cadavre. Il avait oublié ce disciple de Jésus, le grand enseignement de son maître, qu'un pécheur, quelle qu'ait été la gravité de son crime, peut toujours, si son repentir est sincère, être pardonné. « Je le ferai châtier », a dit Pilate. Ce châtiment, selon la tradition de Rome, aussi bien que celle d'Israël, c'est le fouet. Pilate a-t-il cru que les prêtres se contenteraient de cette punition cruelle ? La flagellation précède obligatoirement toute mise à mort. Brutalement, on arrache à Jésus ses vêtements. On l'attache par les poignets à une colonne ou à un mur, les bras tirés vers le haut. L'instrument du supplice, le flagellum, un fouet en manches courtes, auxquelles sont attachées des lanières longues et épaisses. Pour que les coups soient plus douloureux, pour qu'ils déchirent mieux la peau et la chair, on attache aux extrémités de ces lanières des balles de plomb ou des osselets de mouton. Et les coups s'abattent sur Jésus. Selon la loi juive, ils ne doivent pas dépasser le nombre de 40. Le droit romain ne fixe aucune limite. Il faut simplement veiller à conserver vivant le condamné. Il arrive néanmoins, dit le poète latin Horace, que le supplicié soit déchiré par les fouets à en dégoûter le bourreau. Les coups ont commencé à entamer son dos, ses hanches, sa nuque. Chaque fois que le fouet s'abat, une douleur fulgurante assaille le supplicié. La douleur, selon le témoignage d'un homme qui eut à subir cette peine, part du cou, descend jusqu'à l'extrémité des orteils, irradie jusqu'aux ongles des doigts, traverse le cœur comme si l'on avait planté un couteau dans le corps. L'intervalle entre les coups est d'une longueur angoissante. Le sang monte à la bouche, jaillissant des poumons ou de quelques organes internes déchirés par les contractures provoquées par l'atroce douleur. Tout cela, l'homme Jésus le subit. Le même qui, quelques heures plus tôt, suppliait son père d'éloigner de lui ce calice. Le pire, peut-être, c'est que cette horreur s'accompagne non seulement de l'indifférence de la foule, mais de sa joie. Le nombre obligé des coups est atteint. Enfin, le bourreau abaisse pour la dernière fois son bras lassé. On détache Jésus, il titube. Mon père, autour de lui, sur le dallage, des gouttes de sang forment peu à peu une flaque. Va-t-on un seul instant le laisser en paix ? Mais non. Quelqu'un s'écrie tout à coup, « S'il est le roi des Juifs, il lui faut une couronne, un fagot de branches épineuses maintenu en cercle. »